Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
La nuit rêvée de Ernest Pignon-Ernest. Un peu plus de minuit, bienvenue à tous dans les nuits de France Culture. L'image d'Ernest Pignon-Ernest ne s'ouvre pas comme une fenêtre à la manière d'un tableau. Elle fait surgir quelque chose du mur, comme un coup de poing. Le passant ne la reçoit pas d'emblée. Il aperçoit d'abord au loin un spectacle confus et bizarre. Il se rapproche et alors, soudain. Soudain, il y a choc. Donc le passant a été heurté par du réel. Cri ou juron, l'image fait choc, elle est dramatique. Ernest croit à quelque chose et tout est là. La fragilité du papier a beau nier l'œuvre, le noir et blanc démentir la présence réelle, l'éclairage mettre entre guillemets la citation du passé à comparaître devant nous, les figures d'Ernest n'en sont pas moins très sérieuses. Elles ne plaisantent pas un instant sur la cruauté, la mort, le désir ou le regret. Ernest appartient à la variété douce et même joviale des écorchés vifs. Bonsoir Ernest Pignon-Ernest.
Bonsoir Alban, merci.
Ces mots sont ceux de Paul Venn, un extrait d'une préface dans laquelle il vous présentait bien mieux que je n'aurais pu le faire. La préface d'un livre que vous avez signé il y a maintenant une trentaine d'années. Depuis longtemps, on ne présente plus le Niçois que vous êtes, qui court le monde pour extraire des murs de ces villes les spectres de leur histoire, que ce soit celui de Rimbaud, de Pasolini ou des fusillés de la Commune et une cohorte d'autres. Corps, visages, regards, célèbres ou anonymes, qui nous hantent, comme l'écrivait Paul Venn, même quand nous ne le savons plus. Des dessins, des sérigraphies, le fusain, la pierre noire, le papier, fragile, collé par vous-même et personne d'autre. Votre travail, nous serons évidemment amenés à l'évoquer tout au long de cette nuit à travers les archives que vous avez souhaité nous faire entendre, par exemple celle qui nous conduira à Naples, l'une des capitales de vos créations éphémères. Et si la radio n'a pas le pouvoir de faire surgir des images à voir, nul doute que parviendront, jusqu'aux oreilles des auditeurs, celles que vous avez choisi de leur envoyer. Ernest Pignon-Ernest, êtes-vous, comme l'écrivait Paul Venn dans la préface que j'ai déjà citée, un artiste dont le travail consiste à susciter des hantises ?
Peut-être, oui. Je me souvenais plus de cette préface de Paul Venn. Un jour, il m'a appelé, une fois à 3h du matin, parce qu'il est assez curieux. Il m'a dit, Ernest, j'aurais jamais dû écrire cette préface parce que, au fond, je supporte pas que tu fasses des œuvres qui disparaissent. Et ça veut dire que j'ai rien compris à ton travail. Bon, il est assez surprenant. Oui, j'essaie de susciter des émotions. Et de révéler les lieux dans lesquels je m'inscris.
Diriez-vous que le plateau d'Albion en 66 a été la matrice dont a procédé tout ce que vous avez fait par la suite ? Rappelez-nous peut-être d'abord ce qu'a été alors votre démarche.
Oui, c'était au plateau d'Albion, c'est un tournant. C'est là que s'est concrétisé ma difficulté, mon impossibilité à peindre, si vous voulez. C'est-à-dire que je m'étais installé dans le Vaucluse, c'est là que j'ai connu Paul Venn d'ailleurs, parce qu'il habite au pied du Ventoux. Je m'étais installé dans le Vaucluse parce que pour moi, c'était un peu la Toscane. Vous voyez, c'était Pétrarque, René Char, voilà. C'était notre Toscane à nous. Les amandiers, la lavande et tout ça, quoi, vous voyez. Et je m'étais installé là-bas pour me mettre à faire de la peinture, me quitter Nice, me concentrer. Et j'apprends qu'à quelques kilomètres du bistrot que j'ai loué comme atelier, dans un minuscule village qui s'appelle Métamis, j'apprends que s'implante la force de frappe atomique. J'étudie ça, je vois que c'est quasiment 1000 fois Hiroshima enkysté sous les champs de lavande, voilà. Et je me dis, bah voilà un thème. Je veux dire, parce que vous savez, si je fais de la peinture, c'était à cause de Picasso, et pour moi, Guernica est la référence permanente, quoi. Et j'ai cru que j'avais là un thème à la mesure de ce que je voulais faire, et j'ai fait ce constat qu'il m'était impossible d'exprimer, de figurer cette violence qui était faite à cette terre. Vous voyez, mettre cette puissance de mort sous les amandiers en fleurs, quoi. Vous voyez. Et j'ai essayé pendant des mois de le peindre, et comme il m'est apparu un moment que la peinture ne pouvait pas résoudre ce problème. Et que même si j'arrivais à faire une peinture, les modalités de diffusion de la peinture rendraient dérisoires. Vous voyez, dans le meilleur des cas, j'aurais fait une exposition à Carpentras. Vous voyez, et que c'était au rapport du problème que je voulais appréhender, ça tenait pas le coup. Et j'ai compris que c'était les lieux eux-mêmes qui avaient été kidnappés, détournés, vous voyez, violés. Et j'ai pensé que c'était sur les lieux mêmes qu'il fallait que je travaille. Ne plus les représenter, mais les saisir dans leur complexité, dans leur signification, dans leur richesse plastique et tout ça. Voilà. Et en général, je lis beaucoup quand je travaille un thème. J'avais découvert cette photo, dont j'oublie le nom du photographe à l'instant, un japonais, qui a été faite, paraît-il, le lendemain d'Hiroshima. Et c'est la photo d'une photo, en quelque sorte, parce que l'éclair nucléaire a décomposé un homme et il ne reste plus de lui que son ombre portée sur le mur. Le mur est brûlé et il n'y a plus que la silhouette noire comme un fantôme de cet homme. Et donc, à partir de cette photo, j'ai découpé un pochoir et que je suis allé appliquer sur les routes, sur les quelques murs, sur des rochers aussi, qui allaient en direction du plateau d'Albion. Vous voyez, comme une alerte, comme si je mettais en effet un fantôme qu'on allait... Voilà. Et si vous voulez, c'est à partir de là, finalement, que je n'ai plus fait de peinture et que j'ai envisagé les lieux ou les événements comme un matériau.
Et quand Paul Venn écrit que vous êtes un écorché vif, doux et jovial.
Ouais, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Parce que je l'ai rencontré souvent. Alors il était très étonné à la fois de mes recherches sur les mythologies, parce que c'est le grand spécialiste, bien sûr, hein, et à Naples, puisque vous avez fait allusion à Naples, j'ai beaucoup travaillé sur Naples, où j'ai interrogé un peu tout ce qui fonde ma culture de méditerranéen, et cette présence de la mort qu'il y a à Naples en permanence, à travers Caravage, le souvenir des tremblements de terre ou des grandes pestes et tout ça. Et donc, Venn sait tout ça, mais en même temps, c'est l'anecdote compte. Paul Venn habite au pied du Ventoux et je fais du vélo. On en parlera
tout
à l'heure.
Au cours
de la nuit.
Oui.
Et j'allais le voir chaque fois que j'allais faire le Ventoux à vélo. Je lui envoyais des photos de mes travaux napolitains d'une grande gravité qui essayait d'interroger tous ces mythes liés à la mort. Et puis il me voit arriver en short à vélo. Vous voyez, de coup, cette espèce de
contraste.
De contraste, quoi. Voilà.
C'est avec un atelier de création proposé par Sophie Nolot en 2011 que s'ouvrira votre programme d'archives Ernest Pignon-Ernest. C'est à Notre-Dame de Paris que nous transportera la première archive pour une promenade nocturne et clandestine au sommet de la cathédrale en compagnie d'un drôle de paroissien qui s'était fait une spécialité d'escalader nuitamment les édifices et les monuments les plus élevés des villes et d'y passer des heures. À Paris, les toits de Notre-Dame en particulier, partis depuis en fumée, n'avaient plus de secret pour lui. Pourquoi avoir choisi cette émission ?
Ben parce que je l'ai entendu donc chez vous et que ça m'avait beaucoup troublé. Il y avait là aussi, on parlait de contradiction à quelques secondes. Il y a une dimension onirique dans cette ascension. Un moment, je crois, il rentre dans la flèche. Vous voyez, il y a des dimensions comme ça, très mystérieuses. On est obligé de penser à Hugo, moi, à Nerval et tout ça. Et en même temps, on entend leur souffle. À un moment, elle dit « Je descends Notre-Dame en rappel ». Vous voyez, il y avait cette espèce de contradiction et qui a une résonance en moi. Parce que je me mets dans des situations un peu du même ordre. Ça m'a fait penser mes collages, vous voyez. Tous les collages que je réalise, je les fais de nuit. Et du coup, j'ai ce sentiment que la ville ou des lieux exceptionnels m'appartiennent un peu, vous voyez. Et je suis dans ce même type de relation. Et j'avais trouvé ce pari très, 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 très beau, cette contradiction tout le long, qu'on entend son souffle, c'est un côté très, très sensuel, très, très physique, très, très concret. Et en même temps, il y a cette image de Notre-Dame avec toute son histoire, quoi, vous voyez. Il y a un poème très beau de Nerval voilà, un peu c'est ça qui m'a amené à la choisir. Moi, j'ai fait un collage, et j'ai un moment très précis. J'ai fait un travail sur Pasolini. Au moment du 40e anniversaire de sa mort, et j'essaie toujours que mes images soient liées à des lieux, leur sens vient souvent de dialogue avec les lieux, et je voulais absolument faire référence à Catone, le film de Pasolini, et son petit héros, là, ce petit voyou, plonge du pont Saint-Ange à Rome. Et je voulais absolument que mon image soit là, soit en leur relation, parce que ce petit voyou, il est là à moitié nu, et il est superposé à un ange du Bernin qui est sur le pont, vous voyez. Et il monte sur la margelle du pont, et il y a cette superposition entre la sculpture du Bernin et ce garçon. Et je voulais associer mon image à ce souvenir. Alors, je suis allé 10 fois, il y a le Tibre là qui passe, et finalement, je suis allé acheter un canot pneumatique, et à 3h du matin, j'ai gonflé le canot pneumatique, j'ai traversé le Tibre, j'ai grimpé sur les piles du pont, et je suis allé coller. Et cette émission m'a suggéré des choses de cet ordre. Voilà.
Notre-Dame, d'ailleurs, peut-être plus encore après son incendie, est-ce un lieu, un quartier, à partir duquel vous avez déjà pensé faire quelque chose, Ernest Pignot-Ernest ?
Notre-Dame, vraiment, non. Sinon que j'ai collé des images pas très loin, lors de mes premiers collages dans Paris. Lié à Notre-Dame, je n'ai pas fait, c'est un trop gros morceau. C'est-à-dire que pour intervenir dans des lieux, il faut que je les appréhende dans toute leur complexité, vous voyez, dans leur, à la fois leur puissance plastique, parce que quand même je suis un peintre, mais aussi leur charge historique, symbolique, et là, Notre-Dame, j'ai pas osé m'attaquer, envisager ça, non.
Vous marchez beaucoup le jour, mais aussi la nuit, donc pour vos repérages, et c'est aussi la nuit que vous collez. Jamais d'autorisation, Ernest Pignot-Ernest ?
Non, j'ai jamais demandé. Non, on peut pas. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé, je vous disais il y a quelques minutes, là, dans la ville de Naples, sur des espèces de glissements, mythe grec, mythe romain, mythe chrétien. Donc j'ai collé des images à Pâques sur les églises de Naples. Si on demande, on vous le refuse. Vous voyez, je veux dire que c'est impossible. Par contre, quand je les ai faites, aucune n'a été enlevée. Vous voyez, je veux dire, mais voilà. Et puis, c'est pas possible de demander, quoi.
Puis ça fait partie de la liberté.
Oui, complètement.
À laquelle vous tenez.
Ça serait un tout autre état d'esprit, quoi. Vous voyez, je décide de faire ça, je demanderai à personne. J'ai cette grande liberté de pouvoir faire des interventions qui ont quelquefois une ampleur, parce que je colle des fois des centaines d'images. Mais ça ne dépend que de moi, que de mon travail de dessin, de mes sérigraphies. Vous voyez, je garde cette liberté. Jamais de commande, ni de commande, ni de demande.
On ne quittera pas la nuit avec l'archive suivante, Yves Simon, Les voyages et la nuit. Nous l'écouterons raconter ses voyages en 1979 au micro de Alain Rioux. Quand et comment avez-vous rencontré Yves Simon ?
Ben, Yves Simon, je l'ai rencontré à l'occasion de mon premier collage dans Paris. Ben, il y a juste 50 ans, puisque je suis venu coller à Paris des images à l'occasion du 100e anniversaire de la Commune de Paris. J'avais repéré des lieux à travers Paris, les lieux des dernières barricades. Et, vous voyez, j'ai fait des collages pendant une semaine, toutes les nuits, liées à la Commune, que j'ai terminé sur les escaliers du Sacré-Cœur. Voilà. Et à ce moment-là, je sais plus comment, ainsi j'ai rencontré dans la nuit un type qui faisait des photos et qui l'a signalé à quelques journaux gauchisants de l'époque, vous voyez, Mao, Trotskiste, il régnait ça, qu'une intervention dans les rues sur le thème de la Commune avait beaucoup intéressé. Ils m'ont donné rendez-vous dans un bistrot. En face de la Closerie des Lilas, je me souviens. Je vivais pas encore à Paris quand j'ai fait ça. C'est en 71, donc. Et donc, ils étaient 6-7 journalistes de cette presse un peu alternative. Et il y avait Yves Simon qui était là pour l'actuel de Bizot. Voilà. Et en somme, c'est Yves qui est le premier à écrire sur mes collages dans la presse nationale. Vous voyez, c'était le premier. Et puis, quand on a fini l'entretien, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas dîner ?» ou un truc comme ça, je le connaissais pas. Il m'a dit « Ben, viens chez moi, on fait des pâtes et voilà. » Et là, j'ai découvert qu'il était chanteur et écrivain, parce qu'il avait déjà publié 2 romans en 71, et on s'est lié d'amitié qui est permanente. Ouais, voilà. Je trouve qu'il était des chanteurs qui exprimaient notre temps, qui exprimaient ma génération. Vous voyez, c'est le type qui est parti aux États-Unis, sa référence, c'est Kerouac, c'est Dylan, c'est la Beat Generation, vous voyez. On est un peu nourri de ça. Moi, lorsque vous avez fait allusion, lorsque j'ai collé Arthur Rimbaud sur les routes, pour moi, c'était presque Dylan, James Dean voyaient l'idée de la révolte, de la remise en cause. Et Yves Simon a su faire ça, faire entrer dans ses textes même micro-possesseurs, voyez, un vocabulaire, des signes, des images, l'image des aéroports, d'une espèce de modernité qui arrivait dans les années 70. Il avait le vocabulaire pour ça. Et puis il menait de front ces deux carrières, à la fois d'écrivain, puisqu'il a eu le Médicis quand même, hein, et de chanteur et de poète. Voilà.
Entre Yves Simon, donc vous l'avez dit, il y a La Nuit, peut-être, Les Voyages et Rimbaud.
Et oui, Rimbaud en commun. Il est le premier qui a utilisé mon image de Rimbaud sur une pochette de ses disques. Voilà.
À propos de Rimbaud, avec Florence Delay, Michel Deguy, Jacques Reda, Olivier Rollin, Sophie Nolot, Jean Rouault, Jacques Roubaud, notamment, vous avez signé une pétition répondant à celle qui réclame que l'on mette au Panthéon les dépouilles mortelles de Verlaine et de Rimbaud. Mmh. Rimbaud et Verlaine panthéonisés. Est-ce quelque chose qui pourrait entamer votre jovialité, celle dont parlait Paul Veyne ?
Bon, entamer ma jovialité. En tout cas, j'étais un peu consterné par cette demande. Je la trouve presque un peu ridicule. Je me suis même demandé si c'était pas un truc de potache, mais une connerie, quoi. Un truc, parce que c'est tellement, ce communautarisme, dire les faire entrer en couple au Panthéon, c'est presque, ouais, c'est dérisoire ou indécent, quoi. C'est, faut dire, Rimbaud, avoir besoin de cet argument, c'est le troisième argument dans leur lettre, c'est, il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'homosexuel. Vraiment, on s'en fout complètement. C'est grotesque, c'est, bon, la consternation, c'est, bon, les gens qui lancent, d'abord, ils l'ont fait dans une publication, Nous sommes Rimbaldiens, qui en couverture mon Rimbaud. On a dû me demander l'autorisation, mais je ne savais pas le contenu du texte, vous voyez. Là où je suis concerné, c'est que des ministres et des ministres de la culture, et certains que j'admire, n'ont pas vu la dérive que ça porte. Un jour, on nous dira, il faut une femme lesbienne noire, un jour, on nous faudra... Vous voyez, c'est effrayant, effrayant de bêtises. Et puis, Rimbaud... Moi, je leur écris. Vous savez, parce qu'ils m'ont demandé d'être signataire tout de suite de leur demande. Je leur ai dit, vous savez, j'ai fait une image de Rimbaud sur du papier journal, en sérigraphie, c'est-à-dire des choses très modestes, très pauvres, que j'ai collées de façon anonyme la nuit sur la route de Charleville à Paris. Et ce qu'il y avait de plus rimbaudien dans ma proposition, c'est qu'il allait disparaître, que c'était du papier journal et que je ne le figerais pas. C'est René Char qui dit, tu es passé fulgurant, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, c'est ce qu'il y avait. Et je leur ai dit, je l'ai collé de Charleville au boulevard Saint-Michel, mais il marchait pas vers le Panthéon. Voilà. Et ben, Rimbaud ne marche pas vers le Panthéon, quoi, vraiment.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. Va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte-Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'en sommeille, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Ernest Pignon-Ernest, après Yves Simon, c'est avec un autre chanteur que se poursuivra votre nuit rêvée. Un chanteur qui ne pouvait pas ne pas y figurer, Jean Ferrat. Nous l'écouterons au micro d'Émile Noël dans le premier des profils qu'il lui consacrait en 1970. Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Jean Ferrat ?
La première rencontre, non. Ça fait très longtemps. Je ne peux pas vous dire. Nous avons des amis communs, notamment la chanteuse Francesca Soleville. C'est peut-être avec Francesca Soleville que je l'ai connue pour la première fois, là-bas en Entraigue. Voilà, c'était en Entraigue. Le maire d'Entraigue était peintre aussi à un moment. Et c'est dans ce contexte-là, mais ça fait 40 ans peut-être, vous voyez, je veux dire. C'est une amitié essentielle, vraiment. C'était un homme exceptionnel, de rigueur et de chaleur, parce que j'ai fait aussi des concours de boules avec lui. Je veux dire, c'est comme dit Vane, on mélangeait les deux choses. C'est-à-dire que Jean Ferrat, c'était comme un repère, avant de le rencontrer même. Il a été comme une référence, vous voyez, pour les gens comme moi, qui étant dans une mouvance, une mouvance communiste. Par exemple, je donne cet exemple, on avait beaucoup espéré de ce qui se passait à Prague. Vous voyez, des changements. Et l'intervention des soviétiques a été vraiment une épouvantable, une monstruosité. Et Ferrat a su chanter ça. Vous savez, il a su chanter ça. De la même façon que lorsque dans le Parti communiste français a dit le bilan positif de l'Union soviétique, Jean Ferrat fait une chanson en disant « Et les millions de morts qui forment le passif, faut pas les oublier ». Vous voyez, je veux dire, il a dit les choses que l'on ressentait. Donc il était un peu un repère tout le temps, avec cette grande fraternité. C'était un homme de conviction, mais il a toujours privilégié quand, en même temps l'imaginaire, la poésie et la sensualité. Vous savez, il a été censuré pour ses chansons politiques, mais moi je suis persuadé qu'il a été censuré pour ses chansons érotiques. Parce que, bon, là il chante « Mamom », c'est raisonnable, mais il a chanté « J'irai à genoux boire ton vin doux », il a chanté des choses très très osées. « On me fera pas boire de la flotte pour enlever ta culotte ». Il a des chansons comme ça, Ferrat, comme ça, de grande sensualité, d'humour, c'était un plaisir d'être. Et c'était un homme qui aimait beaucoup faire la cuisine, vous voyez, et qui connaissait bien le vin. Il avait un homme qui aimait la vie. Moi, je me souviens, j'ai été amené à faire son portrait, parce qu'il y avait une exposition qui racontait sa vie, et je trouvais que les photos le figeaient un peu, vous voyez, dans les années 70, avec des fringues, des trucs qui dataient trop. Alors je lui dis, écoute, je vais faire ton portrait, parce que si je te dessine, tu auras entre 35 et 65, un truc comme ça. Et puis ça m'a inquiété, parce que je lui avais expliqué, parce que quand il avait écrit Robert le Diable, le magnifique texte d'Aragon sur Robert Desnos, je lui avais offert le portrait de Desnos, et je lui disais, mais tu sais, quand j'essaie de faire un portrait, j'essaie de me libérer du problème de la ressemblance, de le posséder complètement, de le faire plusieurs fois, et puis de passer au stade où j'essaie de mettre dans le visage ce que je sais de l'œuvre, de la personne, de son destin, vous voyez, voilà. Et je lui disais ça pour Desnos, mais c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait son portrait à lui. Et dans son visage, il avait une grande beauté qui disait cette espèce d'authenticité, de gravité, de rigueur, de fidélité. Vous voyez, voilà.
Dans l'émission que nous allons écouter, nous entendrons Jean Ferrat chanter « Je ne chante pas pour passer le temps ». Même si son répertoire n'était pas uniquement composé de titres idéologiquement marqués, il était ou passait pour être le chanteur engagé par excellence. Ernest Pignon-Ernest, on connaît vos prises de position politique en tant qu'artiste, mais en dehors de votre pratique artistique, diriez-vous de votre travail, de vos œuvres, qu'elles sont politiquement engagées, autrement dit, que vous ne dessinez pas, que vous ne collez pas pour passer le temps?
c'est bien de mettre en résonance avec Jean Ferrat, c'est bien. Sinon que, vous savez, dans ma génération, il y a eu un tas d'artistes, de gens du même âge que moi, qui se sont engagés d'une autre manière, c'est-à-dire en disant il faut que l'art soit au service de la classe ouvrière, des gens, des attitudes soviétique ou chinoise. Moi, j'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais illustré le politique, si vous voulez. Vous voyez? Alors, mes images sont engagées. Je vais revenir sur le mot engagé. elle porte des convictions. C'est-à-dire, vous voyez, je veux dire, j'ai parlé de l'apartheid, j'ai parlé du problème de la libéralisation de l'avortement, de l'immigration, mais ce sont pas des mots d'ordre. Vous voyez, il n'y a pas de mots d'ordre. Je parle, au fond, mon travail parle tout le temps de ce qu'on inflige aux hommes. C'est pas l'illustration d'un discours politique. Vous voyez, le mot engagé traîne trop de casseroles avec les soviétiques et tout ça pour que je le mette. Moi, je le dis jamais pour moi. Mais évidemment, je cache pas que j'ai des convictions, bien sûr. Bien sûr.
Compagnon de route, comme on disait, Jean Ferrat n'a jamais été, je crois, membre du Parti communiste. Non. Vous l'avez été, vous, un temps.
Oui.
Vous êtes toujours président des Amis de l'Humanité. Par exemple, cet attachement à ce journal, notamment, et à ce qu'il représente, est-ce la fidélité à un idéal ou à une histoire ?
Eh bien, les deux, même peut-être encore plus que ça, quoi. Oui, non ? Moi, c'est Edmond Charles-Roux qui m'a demandé de lui succéder. Vous voyez, on ne peut pas refuser. Et on m'a même dit, tu me remplaces. J'ai dit, on ne peut pas te remplacer. Vous voyez, c'est une femme pour laquelle j'avais une grande admiration, qui partageait. Voilà. C'est le journal de Jean Jaurès, vous voyez. Et puis, je pense que si un journal disparaît, quel qu'il soit, vous voyez, je pourrais être président des Amis de la Croix. Je pense que la presse est essentielle, que c'est une question de liberté d'expression. Et comme artiste, je suis solidaire, quoi, bien sûr.
Alger, Soweto, Naples, l'Amérique latine, le Chili, Haïti, Ramallah, vous avez fait parler les murs des villes du monde entier, fait surgir de leurs murs les corps, les visages de leur histoire. Mais pourquoi jamais ceux, je crois, des villes de l'Est de l'Europe, celles qui étaient de l'autre côté du rideau de fer, comme on disait, serait-ce pour des raisons pratiques, d'opportunités, ou parce que vous ne voyez pas par quel bout prendre cette histoire, ou alors parce que vous êtes un incurable méditerranéen guidé avant tout par le soleil ? Ernest, oui. Pignon-Ernest.
Mais il y a tout ça, c'est comme tout à l'heure, je dirais, il y a les deux choses. Ouais, j'ai pas une culture. J'ai simplement fait une grande fresque à Belfort où je fais référence à la culture germanique. Hein, Hölderlin, Schiller, Heine, Thomas Mann, Stefan Zweig. Ouais, rien ne m'a porté. Si, je suis allé deux fois et j'avais un projet de... Je ne sais pas si maintenant, avec l'âge avance, je ne sais pas si je pourrais le faire. Il m'est arrivé une chose assez étrange. Une fois, j'ai exposé près de Prague, dans une grande exposition sur le thème du baroque. Un chauffeur m'a pris à l'aéroport de Prague. Il parlait ni anglais ni français. Et m'a amené à presque 100 km de Prague. Et en route, on lui avait dû lui dire de me faire descendre et de visiter un truc. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas où j'allais. Il a arrêté la voiture, il m'a fait signe avec les mains de faire le tour de ce truc, de ce bâtiment qui avait l'air d'une caserne un peu sinistre. Et c'était Térésine. Et je marche dans ces bâtiments, et d'un coup je vois la plaque « Ici est mort le poète français Robert Desnos », vous savez. C'était un événement pour moi qui a une pour moi Desnos avec Nerval. J'ai eu une émotion énorme. Donc j'avais toujours pensé que j'irais faire quelque chose dans le camp de Térésine pour terminer mon parcours sur Robert Desnos. Mais sinon, c'est vrai que d'abord, tant qu'il y avait les pays soi-disant socialistes, totalitaires, j'ai même refusé des expositions à Moscou. Vous voyez, pour moi, même lorsque j'étais membre du Parti communiste français, je refusais d'aller en Union soviétique. Quoi, vous voyez, c'est pas l'exemple. Ça n'a jamais été un pays communiste.
Sur l'aire du terrain du Bourget, devant les bâtiments détruits par la guerre et où subsistent de larges brèches, une délégation de poètes et d'écrivains français, conduite par M. Itier, directeur des lettres, attend l'avion de Prague qui doit rapporter les cendres de Robert Desnos, poète français, déporté politique, mort du typhus en Allemagne. Autour de la femme de Desnos et de Mme Lise de Harmes, les bras chargés de fleurs, Paul Éluard, Pierre Segers, le peintre Félix Lavis, Jacques Parson, Claude Roy, Claude Morgan scrutent le ciel. Et rien n'est plus étrange dans le soir qui tombe sur l'aéroport du Bourget, tandis que les lumières commencent à baliser le terrain, que cette attente du poète déporté, du poète mort, qui a connu tant de bagnes allemands et dont les cendres reviennent ce soir en France à travers les airs. Ce dernier vol du poète, cette dernière courbe qui l'amène de la ville du typhus jusqu'aux portes de Paris, a quelque chose de poignant. et pour ceux qui sont là, qui tous l'ont connu, il s'y ajoute une émotion impossible à décrire. La dernière fois que j'ai vu Robert Desnos, c'était au camp de Compiègne où nous nous sommes trouvés enfermés ensemble. Il était magnifique de vie, d'ardeur, d'entrain, de confiance dans la victoire. Quelque temps plus tard, il partait pour l'Allemagne. Il ne devait pas en revenir vivant. De Fresnes et Compiègne, il devait traverser Auschwitz, Buchenwald, Flora et mourir après la libération du typhus qui fit tant de victimes parmi les déportés. Au milieu des appareils qui se posent et décollent du terrain, un avion militaire au ton plombé roule sur l'air, va s'arrêter devant nous. Français s'approche de l'échelle. Un homme en descend. C'est Monsieur Lacombe, conseiller culturel de l'ambassade de France à Prague, qui porte l'urne contenant les cendres du poète. Quelques écrivains tchèques, Monsieur Tcherny, Monsieur Alas l'accompagnent. Mais derrière eux sont les jeunes étudiants en médecine qui reconnurent sur son lit de mourant et soignèrent Robert Desnos, dont la femme en ce moment les embrasse et les remercie. La minute est très émouvante. C'est alors que Monsieur Itier, directeur des lettres, remercie en termes très brefs les écrivains tchécoslovaques.
Avec un sentiment d'émotion que j'accueille ici au nom de M. René Capitan, ministre de l'Éducation nationale, les cendres du grand poète français Robert Desnos, rendues à sa patrie par l'amitié des écrivains et des étudiants de Tchécoslovaquie.
Tout cela est digne, simple, d'autant plus émouvant. Les cendres de Robert Desnos sont rentrées en France.
Nous venons d'entendre un reportage de Michel Robida enregistré le 15 octobre 1945. Ernest Pignon-Ernest, vous teniez absolument à réentendre cette archive, une archive que vous aviez entendue une nuit.
Oui, oui, oui. Oui. Ça, c'est les miracles de vos nuits de France Culture. J'ai gardé ce souvenir très fort, justement, parce que donc, mon voyage à Térésine, ces souvenirs, cet étudiant tchèque qui avait lu Breton et qui connaissait le nom de Desnos et qui ne le quitte pas et qui fait en sorte que il ne soit pas brûlé 6 par 6 comme c'était le cas pour pouvoir ramener ses cendres qui sont là à Montparnasse. J'y vais de temps en temps.
Comment avez-vous décidé des lieux, des murs desquels vous avez fait apparaître Robert Desnos?
Je n'ai mis Robert Desnos qu'une fois dans Paris et je l'ai mis à l'endroit, parce que j'ai superposé les plans du Paris du 19e, à l'endroit de la rue de la Vieille Lanterne, où Nerval s'est pendu. Et je faisais ce parallèle, quoi. Voilà. C'est Aragon, hein, dans Robert le Diable, qui dit « Il y avait dans ta voix comme un chant de Nerval quand tu parlais du sang, jeune homme singulier. » Vous voyez, je veux dire, voilà, je suis pas le premier à faire ce parallèle, bien sûr, leur amour pour une chanteuse. Nerval a l'air de... on dirait que Desnos a voulu faire pareil que Nerval. On dirait, voilà, il y a un peu ça. Et Françoise Georges disait qu'elle était la fille de Nerval. Voilà, c'est...
Qu'elles soient sonores, cinématographiques ou photographiques, les archives sont-elles source d'inspiration, des éléments déclencheurs pour un travail, un voyage d'exploration, Ernest Pignon-Ernest?
Oui, oui, probablement. Enfin, moi, je crois à une espèce de sacré laïque et la conscience de ce qui nous a précédés. Voilà. Et je travaille beaucoup, essentiellement là-dessus. Je fais toujours en sorte que les images que je colle dans un lieu soit indissociable de l'histoire du lieu. Vous voyez, qu'elle rappelle en quelque sorte. Au fond, les images que j'inscris dans les lieux, c'est pas toujours que ça, mais il faut en même temps qu'elles fassent remonter, revenir à la surface le potentiel symbolique, dramatique, historique que portent les lieux. Il y a une tendance à l'oubli en ce moment, je trouve, tout le temps, et qui est très inquiétante.
Vous qui êtes un homme d'image, quel est votre lien, votre rapport aux mots?
Je vis comme un handicap d'écrire avec difficulté. Voilà, je crois beaucoup aux mots. J'aimerais quelquefois que mes images soient comme des mots, qu'elles deviennent comme un signe, quoi, vraiment. Mais je possède pas ça. J'ai fait beaucoup de livres avec des poètes. J'en ai fait 20 avec André Velter.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Voilà. Donc, des fois, je suis jaloux. Je me dis, ah oh là, il arrive à dire en un vers ce que je voudrais que mes images disent. Vous voyez, je veux dire.
La poésie et les poètes, nous avons parlé de Rimbaud, de Death Note, des poètes chantés par Ferrat. La poésie fait-elle partie de vos lectures quotidiennes?
Quotidienne, je ne jurerai pas, mais en tout cas, je suis nourri de ça. Je pense de plus en plus qu'il n'y a que la poésie qui rend compte de notre temps, vraiment, que c'est le regard le plus aigu et le plus vaste sur le réel, ce sont les poètes, quoi. Vous voyez, je veux dire, les gens comme Venaille, comme ouais, Franck Venaille, Borer, Zenou, Bianou, Daniel Bigat, des poètes, c'est eux qui disent notre temps. Et bien sûr, Michel Deguy ou Bonnefoy, vous voyez, il y a une poétesse allemande, je crois, j'avais chopé son poème parce que elle dans un poème elle dit les poètes créent leur pays. Je sais plus comment elle dit parce que c'est une traduction. En effet, qu'est-ce que je serais du Chili si j'avais pas lu Neruda, vous voyez, les poètes et moi je les appréhende dans mes travaux, dans mes images un peu de cette manière, comme s'ils incarnaient leur temps et leur pays, quoi. Comme je suis athée, que j'ai pas de saint pour incarner des valeurs, je crois que ce sont les poètes qui jouent ce rôle. Vous voyez, Pasolini dit l'Italie du 20e siècle complètement, quoi. Vous voyez, toutes ces contradictions, vraiment.
André Velter, que vous avez évoqué, dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard dans cette nuit, André Velter définit la poésie ainsi. Quand elle refuse d'être un ornement ou une collection, elle dit le réel, mais en le révélant plus vaste et d'une prodigieuse intensité. Voyez-vous, vous-même, comme un poète, Ernest Pignon-Ernest, un poète de l'image, en l'occurrence?
Complètement. Je voudrais... d'ailleurs, vous voyez, je suis influencé par André, parce que je crois que j'ai employé les mêmes mots que lui. Parce que nous avons fait un livre... un jour, il a vu les poètes que je dessinais depuis mon adolescence. Et on a fait un livre qui s'appelle « Ceux de la poésie vécue ». Voilà. Et il m'a dit, mais je partage avec toi ces 19 poètes, de Rimbaud à Maniakovski, à Mahmoud Darwish et tout ça. Ouais. Au fond, mes œuvres, ce sont pas mes images, hein. Ce sont ce qu'elles provoquent dans les lieux et dans le temps où je les mets. Et donc, mes interventions, je souhaiterais que mes interventions aient une résonance comme ce qu'il vient de dire de la poésie, quoi. Voilà.
Dramaturge urbain de nos songes, c'est ainsi que vous dépeint Yves Simon, ça vous va?
Ah ouais, tout à fait. Je ne me souvenais pas, mais c'est bien.
Merci Ernest Pignon-Ernest. Nous allons écouter les archives de la première partie de votre nuit rêvée. Dans un instant, Escalader la nuit, un atelier de la création de Sophie Nolot en 2011. Yves Simon, Les voyages et la nuit, 24e et dernier de la série Les mauvais coucheurs de Alain Rioux en 1979. Le premier des trois profils de Jean Ferrat au micro de Émile Noël en 1970. Les deux suivants seront diffusés les nuits prochaines. Et enfin, Jazz à l'affût avec Louis Clavis, un carnet de notes proposé par Yvan Amar en 2002. En quelques mots, présentez-nous Louis Clavis. Nous en parlerons tout à l'heure, mais...
Oui. Oh ben écoutez, c'est devenu un ami parce que j'ai aimé sa musique. Je l'ai écouté en concert la première fois avec Michel Portal. Et puis ils ont eu la gentillesse, Portal, Clavis, Marc Perron, Bernard Lubat, d'improviser sur mes dessins, parce que le festival du Zest était une chose exceptionnelle, hein, ce qu'organise Bernard Lubat là-bas à Uzès. Et puis donc, c'est devenu un ami, c'est une musique que j'écoute, et donc il m'a fait l'honneur, le plaisir de faire deux disques maintenant entièrement inspirés de mes travaux.
Voilà. Nous en reparlons tout à l'heure. Merci Ernest Pignon-Ernest. Nous nous retrouverons dans un peu plus de deux heures pour parler de la suite de votre programme.
Merci à tout à l'heure. Merci à vous, à tout à l'heure.